On prie, et c'est Michel qui prie pour nous.
Au Dieu notre Père, nous voulons te dire merci de ce que tu es notre Papa. Et ce soir, nous nous adressons à toi pour que tu nous ouvres l'esprit, afin que nous puissions être vraiment des enfants dont tu es fier. Seigneur, les jours qui sont devant nous ne sont pas bons, mais tu es un Père qui n'a que de bons projets pour chacun d'entre nous. Aide-nous à discerner ce que tu attends de chacun d'entre nous. Aide-nous à être des disciples combattants. Aide-nous à être debout quand tu reviendras. Amen.
Alors, bienvenue à chacun pour cette série qui va nous tenir presque 2 ans, puisque c'est une rencontre d'introduction au livre de l'Apocalypse. Je vais vous dire un peu ce qu'on va aborder. Il y a des points classiques dans l'introduction à un livre biblique. Ça ne passionne pas toujours, mais ça aide à bien comprendre le livre qu'on étudie, et spécialement aussi pour l'Apocalypse. Et puis, on aura une étude par mois qui sera placée sur notre chaîne YouTube. On vous l'annoncera. Je vous annoncerai aussi le dimanche quand on enregistre, mais donc ça ne sera pas du présentiel. Ceux qui veulent pourront venir pour l'enregistrement, mais le but, c'est que vous puissiez, on est déjà en direct sur YouTube, plusieurs ont demandé ce soir, le but, c'est que chaque mois, vous puissiez avoir cette étude et vous la suivez selon votre agenda. On va prévoir des moments où peut-être il pourra y avoir des questions-réponses. Vous pouvez de toute façon, on m'a dit sur le déroulement, le fil YouTube, vous pouvez mettre vos questions, je peux regarder et puis y répondre après. Si pas, vous pouvez me donner un petit papier en semaine ou le dimanche et on essaiera d'aborder cette question par après. Puis on verra si on utilise d'autres formules, peut-être de temps en temps une tasse de café ensemble et on répond aux questions qui se posent. Mais le but, c'est de réduire les déplacements. C'est vrai que c'est super la communion, mais il y a plein d'autres occasions, dans les PEB, dans les rencontres de prière, les cultes, une étude, c'est une étude, donc on ne doit pas toujours forcément être tous ensemble, donc voilà, vous gagnez du temps, des déplacements, et puis vous pouvez faire ça dans le cadre, et puis au moment qui vous convient le mieux. D'accord ? Ce sera donc une étude, et pendant 23 mois, donc 22 chapitres de l'Apocalypse, sera une fois par mois, et on le fera aussi en juillet-août, comme ça, on pourra bien avancer ensemble. D'accord ? Le programme pour aujourd'hui, je voudrais d'abord introduire de manière générale l'Apocalypse, quelques remarques de commentateurs, et puis, quand on étudie un livre, on essaye toujours de se renseigner un peu sur l'auteur, sur la date. Ça va être aussi très intéressant de savoir, tiens, est-ce que c'était écrit 2000 ans avant Jésus ou quelques années après sa venue. Donc on a besoin de regarder ce que le texte dit, ce que la tradition, ce que les pères de l'Église ont pu dire. On va regarder aussi un peu la situation historique. C'est aussi intéressant. On a pas mal parlé du livre des Chroniques, mais c'est intéressant de savoir que les personnes qui étaient les premiers bénéficiaires de ce livre, mais ils revenaient de l'exil, de la déportation, et il y avait de nombreuses choses à reconstruire. Donc c'est intéressant de connaître la situation historique. On regardera aussi un peu le message global de l'Apocalypse, ce livre qui peut-être vous fait tellement peur. Moi, je ne vous cache pas que j'avais déjà amorcé une étude il y a des années et des années, mais ça avait été dans le cadre d'études bibliques, tout le monde n'avait pas persévéré. Parce que ça demande quand même un investissement. Mais voilà, si à 58 ans, je vous le propose, c'est que quelque part, c'est peut-être pas le livre qu'on se dit, oh, on va le commenter, on va l'étudier, on remet ça plus tard. Mais je crois que c'est important pour les temps qui sont devant nous. Non pas de jouer aux catastrophistes, en disant, oh oui, voilà, tout se termine. Non, mais Jésus reprochait déjà à ses contemporains, dit, vous savez discerner les signes du printemps, les signes qu'il va faire chaud, qu'il va pleuvoir, et vous êtes incapables de discerner les temps dans lesquels nous sommes. Il parlait bien sûr de sa présence, mais en même temps, il l'a dit, dans chaque évangile, il y a ce qu'on appelle les discours eschatologiques. Eschatos, c'est les choses dernières. Donc, l'eschatologie, c'est cette science biblique qui étudie les choses dernières, les signes, les événements qui vont précéder le retour de Jésus. Et je pense qu'on a besoin d'être capable de discerner les temps dans lesquels nous sommes, hein, pour vivre convenablement. Plus je lis le Nouveau Testament, plus je suis frappé de voir qu'il n'y a pas un livre biblique qui ne parle de ce focus, non pas pour nous faire peur, mais il revient. Ce sera pour vous la délivrance, ce sera la gloire. C'est pourquoi il y a toujours des exhortations qui viennent toucher notre aujourd'hui, notre façon de vivre. Hein, je pense par exemple à Pierre qui, dans ces deux petites lettres, va beaucoup parler du retour et il dit, mais puisque vous allez recevoir ce royaume, combien votre conduite doit être sainte, combien votre piété doit être grande. Donc on voit que ces choses, on n'est pas là pour devenir des experts en eschatologie sur l'Apocalypse, on est là pour que ça impacte notre vie. Et puis, mon objectif, c'est vraiment de survoler, enfin faire plus que survoler les 22 chapitres, vraiment nous aider à comprendre ce qui s'y passe. Et vous allez voir, je vais l'expliquer, que ce n'est pas un livre difficile. Il faut juste un peu d'outillage, un peu de méthode. Alors, introduction générale. Dans un de ses commentaires, Paul de Benoît, qui écrit beaucoup sur les lettres de Paul et les lettres de Jean, hein, on va parler des écrits joaniques, c'est les écrits de Jean, évangile, les épîtres, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et nous croyons aussi que c'est lui, on va en parler de l'auteur, que c'est lui qui écrit l'Apocalypse. C'est lui qui cite cet exemple, ça m'avait interpellé. Une maman visite le grand paquebot Queen Elizabeth. Paquebot géant. Hein. Il y a un guide, bien sûr, pour conduire toute cette visite. Et une visite qui prend des heures. Et donc, avec la maman, ils vont dans les restaurants, dans voir les piscines, les chapelles, les cabines, les cuisines, les cales, les magasins, la salle des marchandises, salle des machines. Et ça éveille l'émerveillement, ça éveille l'émerveillement des visiteurs. Et puis, soudain, après 2-3 heures de visite, il y a le petit qui commence à crier, et à pleurer, qui éclate en sanglots, et qui dit « Maman, je voudrais voir la mer !» Il n'avait pas encore vu la mer, il était sur le bateau. Lui disait je vais voir la mer sans arrêt. Et depuis 2-3 heures, il n'a toujours pas vu la mer. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que quand on étudie l'Apocalypse, on a besoin d'un examen sérieux, approfondi. Et cette étude peut être absorbante et difficile. Mais on ne doit pas perdre de vue, quelque part, cette belle expression que Jésus utilise. La seule chose nécessaire, quand j'étudie l'Apocalypse, c'est de voir Jésus. C'est de voir Jésus, d'être en communion avec lui. Je dois avoir une vue sur tout le paquebot, mais je dois bien comprendre que ce navire me conduit, bon, il est piloté par ce cavalier, hein, Apocalypse 19, qui part en vainqueur, le roi des rois, et je ne dois pas oublier que c'est lui le centre d'intérêt. L'ouverture, c'est révélation, Apocalypse. Hein, c'est souvent utilisé de manière différente aujourd'hui. Hein. Il y a des journaux télévisés où il n'y a pas une fois où on n'utilise pas cet adjectif. C'est apocalyptique, hein, c'est catastrophique, c'est désastreux. Ce n'est pas du tout le sens, hein, en grec, c'est révélation. L'Apocalypse, c'est une révélation de Jésus-Christ. C'est d'abord cela que je dois chercher. Un peu partout. Qu'est-ce que j'apprends de Jésus-Christ? Un autre auteur, Charles Brutsch, qui lui a écrit un premier commentaire en 40, il a fait une révision en 41, en 42, en 55 et en 66. Il a dit ceci, « L'Église chrétienne n'a qu'une ligne de repli solide qui lui permette de rebondir à l'attaque. C'est la Bible. » C'est la Bible. Mais celle-ci n'est pas facile à lire. Ce qui veut dire qu'elle ne se laisse pas faire. Et dans son introduction en 55, il dit « Ce livre, pas de l'Apocalypse, hein, dont on a dit le meilleur et le pire, cette conduite de haute tension qui transmet de l'énergie aux uns et à laquelle d'autres se sont électrocutés, cette Apocalypse grandiose et inquiétante, puissante et décriée, Notre travail s'avère donc périlleux, astreignant, mais aussi passionnant, édifiant et fortifiant pour la foi. Donc, je crois vraiment que pendant ces 22 mois, on pourra voir clair, fortifier notre amour pour Jésus et découvrir le grand projet, le grand focus de l'Apocalypse. C'est pas de nous faire peur, c'est de nous dire « Il revient ». Il revient. Et nous, on doit être des amoureux de son retour. Ça ne veut pas dire que c'est demain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses difficiles à vivre. Mais pour nous, d'abord, il est déjà là par son esprit. Il y a déjà des acomptes. Il y a déjà une vie de gloire. Mais en même temps, le retour de Jésus pour nous, c'est l'apothéose de notre vie. Hein? Donc, on a besoin de bien vivre notre aujourd'hui, parce que nous savons où nous allons. D'ailleurs, toujours dans cette introduction générale, avant d'en arriver à l'auteur, il y a de nombreuses promesses dans ce livre, pour ceux qui vont prendre la peine de l'étudier. Chapitre 1, verset 3, « Heureux celui qui lit », et c'est l'ouverture du livre, hein, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. » Ça commence par une bénédiction. Peut-être il t'est arrivé de claquer le livre, de le refermer, de dire « Moi, ça, c'est fini. Moi, je vais lire les 65 autres. » Mais il y a une bénédiction. Heureux. Ça se termine aussi par une bénédiction. Chapitre 22 au verset 7. « Voici, je viens bientôt heureux. » Et on sait toute la teneur de ce qualificatif, de cet attribut, on pourrait dire, hein, de cette félicité dans l'Écriture. « Heureux, hein, celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Donc, d'emblée, quelque part, on est en train de démentir toute insinuation contraire à l'Apocalypse. Ce n'est pas un livre de malheur, d'abord de châtiment, de punition. Pour celui qui le lit et qui le garde et qui veut obéir, c'est une bénédiction. C'est une joie pour nous de raviver sans cesse notre attente. Hein, ça se termine en disant « L'Esprit dit et l'Épouse dit ». Qu'est-ce qu'ils disent ? « Viens Jésus, viens l'Époux, viens hein, !» La révélation de Jésus-Christ commence par une promesse, bienheureux. Et bienheureux, on sait que en grec comme en hébreu, c'est l'idée de marcher sur le chemin tracé par Dieu. Le bonheur, c'est, hein, psaume 1, heureux l'homme qui ne s'assied pas, mais qui trouve son bonheur dans la loi de l'Éternel. Et heureux, c'est vraiment l'idée, oriente-toi, marche dans la loi de l'Éternel, et ici c'est heureux celui qui colle à ce livre. Et on sait que écouter et garder, dans le langage biblique, c'est vraiment l'idée de connaître et de pratiquer. Donc on voit que ce n'est pas juste un livre qui va alimenter ma connaissance théologique, ce n'est pas d'abord cela, c'est vraiment l'idée de garder cela et de le pratiquer. Un livre comme celui-là, il se pratique. Donc, introduction générale. Deuxième point, je voudrais parler rapidement de l'auteur et de la date. Et vous allez voir que peut-être si ça vous semble un peu théorique, ça va nous aider. Ça va nous aider hein, par la suite. L'auteur, bon, quelques mots. Je pense que c'est admis dans la plupart des églises aujourd'hui et ouais, dans l'histoire de l'église, c'était peu remis en question, un petit peu par certains milieux, mais nous croyons vraiment que c'est l'apôtre Jean. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit de lui ? À plusieurs reprises, il va se nommer, regardez chapitre 1, verset 1, révélation de Jésus-Christ, Dieu le lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et il l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Hein, pour ceux qui prennent note, il y a aussi, c'est dit au verset 4, au verset 9, et au chapitre 22, verset 8. Quatre fois, l'auteur va se présenter comme Johannes, hein, Jean. Est-ce qu'il fournit d'autres précisions qui nous permettraient de l'identifier? Parce que des gens, il y en a plusieurs dans l'Écriture et dans, très vite dans l'histoire de l'Église, des pasteurs seront appelés comme cela. Notons qu'il ne se présente pas comme un apôtre. Il n'utilise pas ce titre-là. Et certains vont dire, donc, oui, voilà, ça veut dire que ce n'est pas lui. Je ne crois pas que c'est dans ce but-là qu'il ne le fait pas. Au verset 1, vous avez noté qu'il se présente comme un serviteur. Au verset 9, « Moi, Jean, votre frère. » Alors, même s'il ne se présente pas comme l'apôtre, on voit que l'écrit dont il sera le porteur et les exhortations qu'il va apporter, vous savez, chapitre 2 et chapitre 3, il va écrire à cette église. Il va manifester une profonde autorité. Une autorité, pour dire, apostolique. Hein. Donc, même s'il ne revendique pas dans cette lettre-là, il le fera dans ses épîtres et dans l'évangile, on voit qu'il va être reconnu aussi ici en qualité de prophète, en voyant aussi comment il s'adresse à ces sept églises d'Asie mineure, donc c'est la Turquie actuelle, hein, sept églises importantes. On voit qu'il a une connaissance minutieuse. On sait que le ministère de Jean a été essentiellement à Éphèse, Asie mineure. Hein. Il s'adresse à ces communautés non pas comme un inconnu, il connaît leur situation, il connaît les troubles, les forces et les faiblesses de ces communautés. Hein, il ne s'adresse pas comme un inconnu. Il est connu de ces communautés. Et donc, par rapport au restant du Nouveau Testament, on voit que très vite, les chrétiens ont attribué cet écrit à l'apôtre Jean. À l'apôtre Jean. Différents arguments vont être avancés. Tout d'abord, donc Jean, c'est l'apôtre le plus jeune, hein, qui va vivre le plus longtemps. Il sera mort avant l'an 100, hein, 97-98. On sait que l'Apocalypse sera écrite plus ou moins en 96. En tout cas, elle sera terminée en 96. Justin, qu'il a bien connu, hein, qui sera pasteur après lui, Justin qui était un peu son disciple, en tout cas qui a bénéficié du ministère de Jean là-bas à Éphèse, dira lui-même dans ses écrits que c'est Jean, l'apôtre, qui avait reçu ces révélations. Hein, il dira « Chez nous, un homme du nom de Jean, l'un des apôtres de Christ, a prophétisé dans l'Apocalypse. » Irénée, Clément d'Alexandrie, beaucoup de pères de l'Église, hein, vont reconnaître le Jean de l'Apocalypse comme l'apôtre. Mais plus encore, il y a des raisons internes. Vous savez, quand on fait des études graphologiques, hein, au début, tu peux peut-être bluffer. Mais quand tu as écrit pendant une heure ou deux, on va reconnaître ton écriture. Et plus encore, quand les profs de français vont se rendre compte, ça c'est la rédaction d'un tel, hein, c'est son style, c'est les mêmes fautes, c'est les mêmes thèmes, et c'est vraiment la même chose aussi avec les écrits johanniques. Hein. C'est Allo dans son commentaire qui dira « L'auteur parle avec une autorité très grande. Il compte que les églises, dès qu'elles l'auront reçu, s'empresseront d'en faire une lecture publique. Il ne reconnaît à personne au monde le droit de le réviser, de l'épurer, de le compléter. Il est clair qu'on n'a pas affaire à un prophète ordinaire. Au moment qu'il s'y nomme Jean, tout simplement, c'est qu'il n'y avait pas, vivant dans le même pays, d'autres gens d'égale renommée et autorité avec lesquels on pu le confondre. Et en même temps, Dans les historiens, les spécialistes de l'histoire de l'Église du 1er siècle disent que dans ces régions-là, il n'y avait pas de gens, hein, à la stature de l'apôtre qui avait une telle autorité. En plus, si vous connaissez un peu l'évangile de Jean et les lettres, on voit que, en effet, dans la rédaction, il y a les mêmes mots, il y a les mêmes thématiques, il y a les mêmes centres d'intérêt. Je prends quelques exemples. Il y a des expressions qu'on ne retrouve chez Jean, dans l'Évangile, dans les Épîtres et dans l'Apocalypse. Et ça, c'est intéressant. On le verra d'ailleurs que pour bien comprendre l'Apocalypse, avoir une connaissance de l'Évangile de Jean, c'est intéressant. Connaître ce qui est dit dans 1 Jean, ça va nous aider à décoder l'Apocalypse. Je vais vous préparer une place. garder les commandements, garder mes œuvres, vaincre, le qualificatif parfait. Hein, Jean va souvent utiliser l'idée de recevoir Jésus, s'ouvrir à l'évangile, voir dans le sens avoir la foi. Les titres donnés à Jésus, le logos, il n'y a que Jean qui fait ça, mais il le fait aussi dans l'Apocalypse. Hein, l'image de l'eau, hein, avoir soif, hein, venir boire. Au niveau de la thématique théologique, on sait combien Jean va parler de la nécessité, va reprendre les textes où Jésus parle de l'amour. Hein, qui va désigner l'attitude globale du disciple. C'est dans l'Évangile, et c'est aussi dans les Épîtres, et c'est aussi dans l'Apocalypse. Un des points culminants de l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus. Au chapitre, j'en ai fait référence tout à l'heure, chapitre 19, verset 11. « Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge avec justice. » C'est Logos, c'est Jésus qui apparaît. On voit dans l'Évangile que son objectif est de nous révéler aussi Jésus. Et au début du ministère, qu'est-ce que l'on voit? On voit une échelle, le ciel ouvert, et une révélation est faite sur le Christ. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à identifier l'apôtre le plus jeune, celui qui accompagnait Jésus, qui était l'un des responsables importants en Asie mineure à la fin du 1er siècle, être l'auteur de l'Apocalypse. Alors, certains ont avancé d'autres noms, mais ça n'a pas tenu trop la route, donc je vous passe ce détail. La date, ça peut être aussi intéressant. Alors, parfois, on ne va pas ergoter sur une année ou deux, hein, mais pour pas mal de livres, c'est intéressant de savoir hein, quand ils ont été écrits. Alors, le lieu, mais ça nous a été dit, regardez verset 9, certains ont visité cette île, et on peut encore la visiter. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance de Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Voilà. Si vous regardez une carte, c'est une île turque. Mais à l'époque, dans l'Empire romain, ce qui est très intéressant, c'est en fait c'est une île réservée, c'est une prison en fait. C'est une prison. Les empereurs y déportaient hein, toutes sortes de personnages, enfin les grands criminels, aussi les hérétiques, les personnes qui s'opposaient au culte impérial. Donc Jean a été emprisonné là-bas à Patmos. Hein. J'étais. Ça veut dire que probablement les premières visions qu'il a reçues, qui nous sont relatées dans l'Apocalypse, ont été reçues sur l'île de Patmos. Et qu'il n'y est pas resté, hein, parce que la tradition dit qu'il est revenu à Éphèse, il a terminé son ministère, il serait mort à Éphèse. Donc c'est Justin qui affirme qu'après sa détention à Patmos, il est revenu à Éphèse, il a vécu jusqu'au début du règne de Trajan, soit jusqu'en 98. Hein, et donc la date avancée pour la fin de la composition de l'Apocalypse, ce serait plus ou moins 95. Irénée dit la même chose, Jean a rédigé l'Apocalypse vers la fin du règne de Domitien, donc c'était Domitien est mort en 96. Donc, l'opinion admise, c'est que suite à une captivité, il reçoit des révélations hein, qu'il complétera à Éphèse plus tard. C'est confirmé aussi par des renseignements dans l'Apocalypse elle-même, puisque il nous est dit que cette lettre est adressée à sept églises, hein, chapitre 2 et chapitre 3. Hein, ça commencera une révélation de Jésus-Christ, il va voir Jésus-Christ, il va tomber comme mort, et puis tout de suite Jésus va lui demander de transmettre sept courtes lettres à sept églises. Hein, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, hein, Laodicée. Et ces églises-là, elles avaient déjà quelques décennies. Elles ont la plupart été implantées par Paul, entre 46 et 57. Les ennemis, la plupart, ce sont des Juifs. ne sont plus vraiment en interne, ils sont en externe. Hein. On voit aussi à la fin de l'Apocalypse, chapitre de 13 à 18, qu'il va être nettement question de Rome. Hein, cette ville avec cette colline. Or, le Domitien, l'empereur à l'époque, est quelqu'un qui va revendiquer, il y a déjà eu quelques prédécesseurs, Néron, mais lui va aller très très loin dans le culte rendu à l'empereur. Il va s'appeler Seigneur et Dieu, et on voit, donc en interne, tout d'abord, c'est les lettres à ces églises qui sont connues, qui ont déjà quelques décennies. En même temps, on voit que Jean cible Rome, on parlera du chiffre 666, hein, qui désigne un empereur en particulier, et en même temps, on se rend compte qu'il s'adresse à une église qui est persécutée par le pouvoir politique, les Romains. On voit donc qu'on est en train de... l'église doit combattre un culte impérial. C'est vraiment donc la fin du premier siècle. Ok, donc pour datation, l'endroit, Patmos et puis Éphèse. Quelques mots sur, avant qu'on s'attache un peu au message et à l'interprétation, sur la situation historique. Hein, je pense aussi, c'est pour tous les livres, il faut qu'on regarde, prenons un exemple, dans les psaumes, on a régulièrement des renseignements sur la situation historique du psalmiste. C'est intéressant de savoir que David est en train de sauver sa peau, qu'il était dans une grotte et qu'il supplie Dieu. C'est intéressant de savoir que tel petit prophète a en face de lui un empire terrible. Empire, prenons, on a étudié Jonas dernièrement, il y a les Assyriens qui sont là et qui mènent la vie tellement dure à tant de nations vers le sud. C'est intéressant. Même chose pour l'Apocalypse. Hein. C'est intéressant et vous allez voir que mieux on va appréhender la situation hein, du premier siècle et mieux on va comprendre ce livre. À l'époque où Jean écrit, c'est Domitien qui est empereur. Alors la postérité va garder de lui l'image d'un vrai tyran. Néron avait déjà fait fort, celui-ci va dépasser d'autres limites. Hein. Il va développer une telle cruauté à Rome, mais aussi dans tout l'Empire. Il va tuer tellement de sénateurs, il va s'opposer au christianisme, à l'hellénisme, il va finir poignardé, il y aura tellement d'ennemis. Mais c'est lui qui va donner une dimension à la religion d'État, au statut de l'empereur. Alors pour nous, c'est difficile à comprendre, mais au départ, c'est le polythéisme, multitude de dieux. Mais il se développe à Rome cette conviction que cet être-là qui a un tel pouvoir, c'est un envoyé de Dieu. Et c'est lui le protecteur de la cité et de la nation. Il est donc une incarnation de Dieu. Et certains vont pousser jusqu'à bâtir des temples, devoir offrir des sacrifices, le louer, l'adorer et l'appeler Seigneur et Dieu. À Éphèse, une des villes à qui Jean va devoir écrire, il y avait le culte de Domitien. Hein. Alors, lui va s'opposer. Les chrétiens, bien sûr, comprenez bien qu'ils ne vont jamais rentrer dans ce culte. Hein. César est Seigneur. Ils ne vont jamais plier le genou. Et beaucoup sont morts. Il y avait eu déjà, avec Néron, quelques... dans le livre des Actes, on a déjà en 49 une persécution des Juifs à Rome. Il nous a dit qu'ils sont expulsés. D'ailleurs, Paul, Priscille et Aquilas ont dû quitter Rome. Ils avaient été expulsés. Mais ça reste encore très local. Un Néron, 64-65, il va persécuter les chrétiens. Hein, beaucoup vont mourir crucifiés et brûlés sur la croix. Ça va durer plus ou moins une petite trentaine d'années. Mais les dernières années de Domitien, la tension va augmenter, le christianisme se répand de plus en plus, et refusant de participer au culte de l'État, eh bien, ils vont encourir les peines souvent les plus lourdes, les plus dramatiques. Hein. Et pendant 200 ans, on va avoir une période des les premiers grands martyrs de l'Église. Hein. Et Jean voit cela prophétiquement. Hein. Et ça va durer plus ou moins 200 ans, jusqu'à Constantin en 313. Hein, le fameux édit de Milan, semblerait que Constantin se soit converti. Et donc, il y aura une liberté religieuse. C'est donc dans ce contexte-là que l'Apocalypse est écrit, dans un moment où les chrétiens sont en train de passer par des temps vraiment difficiles. On sent ça déjà dans l'Épître aux Hébreux. Ce sont des chrétiens de seconde génération. Ils ont vu certains de leurs prédécesseurs être persécutés et il leur dit, on vous a déjà spolié, on vous a déjà confisqué, vous n'avez pas encore souffert jusqu'au sang. Donc on sent qu'il y a un climat hein, de contestation et qui va prendre une forme différente à la fin du siècle. Et on se rend compte que, on va le voir, que pour la compréhension et l'interprétation de l'Apocalypse, on a d'abord besoin de savoir à qui il écrit et comment eux ont reçu ce livre. C'est d'abord écrit pour eux, même si on verra que c'est pour toute l'Église. Alors, quatrièmement, le message. Je vais dire quelques mots sur l'ensemble du message. Le chapitre 2 et 3, les fameuses sept lettres aux sept églises de l'Apocalypse, hein, puisque l'introduction, chapitre 1, introduction, puis une révélation, une vision que Jean va recevoir de Jésus, qui va le mandater pour écrire cette lettre. Mais chapitre 2 et chapitre 3 vont donner le ton à l'Apocalypse. On sait que Jean écrit à des chrétiens persécutés. Il va, son but est de les avertir du danger. Dans certains cas, les appeler à la repentance. Cinq des sept églises vont être appelées à la repentance. Hein. On aura l'occasion de s'arrêter sur chaque chapitre. Hein. Le but est de les exhorter à la fidélité. Quelle que soit l'opposition, ne crains pas la persécution qui va s'abattre pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la fin. En même temps, on voit que Jean veut les encourager, les fortifier, et aussi proclamer l'assurance de la victoire finale pour celui qui tiendra bon. Alors c'est donc un livre qui cherche à les affermir. À celui qui va persévérer, il y a cette assurance hein, de la victoire. Donc chapitre 2 et 3 nous donnent une clé de lecture de toute l'Apocalypse. Et puis vient le chapitre 4. Et là, le récit change, parce qu'on va voir toute une série, tous des cycles de visions, de révélations divines, qui vont avoir trois orientations. Chapitre 4, chapitre 5, ce sont des révélations, et je vous invite, hein, donc la prochaine fois, vous lisez bien chapitre 1, mais pourquoi pas, hein, déjà vous familiariser davantage, donc lisez peut-être en boucle l'Apocalypse. Chapitre 4, chapitre 5, ce sont des révélations du ciel, de ce qui se passe au ciel, et on pourrait même dire de ce qui se passera au ciel. Et c'est intéressant parce que on voit à des chrétiens qui sont persécutés, on les encourage à voir leur situation, à voir le monde à partir du ciel. C'est pas juste une révélation de ce qui se passe au ciel, c'est une clé de lecture pour nous aujourd'hui, mais pour eux aussi, persécutés, en danger, de se voir. Ceci dit, ça se passe déjà comme ça, et on parlera des hymnes qui sont chantés. Et les historiens nous disent que c'était très probablement des cantiques que l'Église chantait déjà.